La chronique ciné, un rendez-vous hebdomadaire avec Jeanne Béran. Actu, sortie, info, rendez-vous dans les salles obscures.
Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine est encore très riche en cinéma, puisque nous sommes dans la deuxième semaine du Festival de Cannes, avant la cérémonie de clôture qui aura lieu samedi 25 à 19h15 et qui révélera les lauréats de cette année. Comme d'habitude, chacun y va de ses pronostics. Sur les écrans cette semaine, on retrouve ainsi plusieurs films présentés à Cannes, en ou hors compétition officielle. Mercredi 22 mai sort Le jeune Ahmed de Luc Dardenne et Jean-Pierre Dardenne avec Idir Hadi, Olivier Bonneau ou encore Myriam Akhediou.
Ça, il risque de vous le donner à l'examen. Essayez de faire celui-là.
A moins B fois A plus B égale A carré. Ah, c'est mon frère, j'y vais.
Ahmed !
Pourquoi tu vas là-bas ?
Les frères Dardenne sont encore une fois de la partie lors de cette 72e édition du Festival de Cannes en compétition officielle. On sait que les réalisateurs belges sont toujours très attendus sur la croisette et qu'ils sont toujours largement récompensés pour leur travail. On a beau les répéter année après année, les chiffres restent toujours aussi impressionnants. Ils font partie du club très fermé des 9 cinéastes ayant remporté 2 palmes d'or. Avec eux, il y a aussi Bill Auguste, Francis Ford Coppola, Michael Haneke, Shohei Imamura, Emir Kusturica, Ken Loach et Alf Sauchberg. Donc leur première palme d'or, pour rappel, c'était en 1999 pour Rosetta, puis une autre en 2005 pour L'Enfant. Ils sont également repartis avec le prix du scénario pour Le silence de Lorna en 2008 et le grand prix en 2011 avec Le gamin au vélo. Par ailleurs, depuis Rosetta, tous leurs longs métrages ont été présentés, en compétition s'il vous plaît, au Festival de Cannes. Remporteront-ils cette année une troisième palme d'or, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de Cannes ? Réponse, samedi.
Il y a un mois, t'étais tout le temps à jouer à la PlayStation avec Karim. T'as enlevé tous les posters de ta chambre.
Tu serais d'accord qu'on discute du Coran une fois par semaine tous les deux ?
Je peux pas lire le Coran avec une femme.
Tu préfères le lire avec un imam qui est un menteur.
C'est pas un menteur.
Si, c'est...
Non.
C'est un menteur, Ahmed.
Ahmed ?
Le mieux, c'est que je te conduise tout de suite à la police pour pas qu'ils puissent dire que c'est la mosquée qui t'a caché.
Ils vont m'enfermer longtemps.
Non. T'es trop jeune, hein. Peut-être un mois ou deux.
Comme à leur habitude, les frères Dardenne livrent avec le jeune Ahmed un drame social, mais cette fois traitant d'un sujet extrêmement sensible, puisqu'il s'agit du fanatisme et de l'endoctrinement religieux et de ses conséquences. Le film s'attache en effet au destin du jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie. Dans Le jeune Ahmed, ils décrivent avec sobriété le parcours d'un guerrier de 13 ans qui, omnibulé par son idéologie obscurantiste, semble prêt à mourir pour servir cette dernière. Pour écrire ce scénario compliqué et sensible, les frères Dardenne ont pris leur temps, un an et demi, soit 6 mois de plus que d'ordinaire, ce qui s'explique notamment car ils ont consulté de nombreux spécialistes afin d'être le plus exact et le plus précis possible. Donc ils ont vu des policiers, des imams, des éducateurs ou encore des juges. Le film est difficile mais important et il suscitera probablement des débats. Mais on peut compter sur les frères Dardenne pour éviter les clichés et faire preuve d'une grande sensibilité, subtilité et d'humanisme dans le sujet abordé. Le jeune Ahmed des frères Dardenne, à voir à partir du 22 mai.
C'est la deuxième fois que je viens, mais c'est encore plus dur que la première. J'aimerais tellement que tu redeviennes comme t'étais.
Tu veux le tenir ?
C'est normal que ça prenne du temps pour comprendre ce que t'as fait. T'as quand même essayé de tuer quelqu'un, et contrairement à ce que disait ton cousin, la mort c'est autre chose qu'une piqûre de moustique. Ahmed !
Ahmed !
Arrête-toi ! Allez,
c'est moi.
Autre film en salle cette semaine, Sibyl de Justine Trier, qui avait obtenu un beau succès en 2016 avec le film Victoria. 3 ans plus tard, elle retrouve l'actrice belge Virginie Efira pour ce nouveau long métrage.
Bonjour, je m'appelle Sibyl.
J'ai quitté la plupart de mes patients, là. Je me sens dans une très très bonne énergie. J'ai surtout envie d'écrire, en fait je suis obsédée par ça.
Je crois que j'ai besoin que vous m'aidiez.
J'ai arraché la place que j'ai sur ce tournage. Je peux pas risquer de tout perdre. C'est impossible. Je suis enceinte de 2 mois, je peux pas le garder. J'ai tellement peur, je peux pas lui dire.
Présentée vendredi 24 en sélection officielle, Sibyl sort le même jour en salle. Le casting est très attirant. Virginie Efira, donc, dans le rôle principal, celui de Sibyl, mais également Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel, Sandra Huller ou encore Laure Calamy. Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir d'écrire, elle décide de quitter la plupart de ses patients. Alors qu'elle cherche l'inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En plein tournage, elle est enceinte de l'acteur principal, qui est en couple avec la réalisatrice du film. Tandis qu'elle lui expose son dilemme passionnel, Sibyl, fascinée, l'enregistre secrètement. La parole de sa patiente nourrit son roman et la replonge dans un tourbillon de son passé. Mais Margot implore Sibyl de la rejoindre au Stromboli pour la fin du tournage. Tout s'accélère alors à une allure vertigineuse.
C'est un comédien. Il est connu, je veux pas vous dire son nom.
Tu liquides tous tes passions pour écrire, mais tu prends cette fille.
On a tous un faible pour certains d'entre eux, non?
Arrête d'écrire sur elle.
J'écris pas sur elle. Cette fille m'obsède.
Il te manque?
L'intensité de l'amour qu'on avait l'un pour l'autre me manque, oui.
Il y a quelque chose que je vous ai pas dit, il est en couple avec la réalisatrice du film. Faut que vous le voyez, que vous veniez sur le tournage. Moi, j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à me projeter.
Non, c'est impossible, ça.
Justine Triet avait plusieurs sources d'inspiration pour Sibyl, en particulier la série En analyse et le film Une autre femme de Woody Allen, où une femme, cherchant le calme et l'inspiration, se retrouve face à une autre femme qui la plonge dans un vertige abyssal et fait exploser toute sa vie. Pour l'aider à développer le scénario, la réalisatrice a également pris conseil auprès de psychanalystes qui ont vécu des expériences déstabilisantes avec leurs patients. L'un des sujets majeurs abordés dans Sibyl est celui des origines, de l'identité et des racines, en particulier de comment on tente parfois de les oublier et de les réinventer, ou de se construire contre elles. Autre thématique importante dans Sibyl, parler du milieu du cinéma, cette micro-société où la vie s'accélère, s'intensifie, où tout devient exacerbé. Ainsi, le moindre petit problème devient une tragédie, les rapports hiérarchiques sont violents et complètement grotesques.
Why did you cast her if you knew that she was Lucy Gore?
I figured it was just a petite histoire.
Action!
I would just have to sit back and watch reality destroy things.
Contrôle-toi, s'il te plaît.
Ne me parle pas. Parle à Sibyl.
Sibyl, dis-lui qu'elle arrête de me faire mal volontairement. C'est pas possible.
Ne soyez pas contre moi, par principe. Like a
motherless child. Pour cette peinture qui confine à la satire, la réalisatrice est inspirée aussi bien de The Player de Robert Altman que de 15 jours ailleurs de Vincente Minnelli. Sibyl de Justine Triet est donc à voir en salle à partir du 22 mai. Like a
motherless child. Is that a joke?
I'm done. I'm done.
Non. Mika, Mika.
Tu vois, il y a des gens, toute leur vie, sont très malheureux. Alors du coup, ils sont obligés de prendre plein de trucs pour oublier qu'ils sont en vie. Quand il leur reste de l'énergie, ils la consacrent essentiellement à pourrir la vie des autres.
Enfin, quelques mots sur un autre film très attendu, présenté au Festival de Cannes, mais cette fois hors compétition. Les plus belles années d'une vie de Claude Lelouch, qui sort aussi le 22 mai.
Bonjour.
Vous êtes nouvelle ?
À quoi?
À des jolies femmes. J'ai beaucoup aimé les femmes. Et surtout l'une d'entre elles à qui vous ressemblez. C'est joli ce geste que vous venez de faire.
53 ans plus tard, le réalisateur retrouve le couple emblématique, Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée, pour la suite d'Un homme et une femme, qui ressort d'ailleurs également en salle à cette occasion. Palme d'or 1966, Oscar du meilleur film étranger et du meilleur scénario. Une première suite avait déjà vu le jour en 1986, intitulée « Un homme et une femme », 20 ans plus tard. L'histoire est la suivante, ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme dont l'histoire d'amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre façon de voir l'amour. Aujourd'hui, l'ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins de sa mémoire. Pour l'aider, son fils va retrouver celle que son père n'a pas su garder, mais qu'il évoque sans cesse. Anne va revoir Jean-Louis et reprendre leur histoire où il l'avait laissée.
Les plus belles années d'une vie.
Vous voulez vous évader avec moi?
Celle que l'on n'a pas vue.
Allez, embrassez-moi.
Ce sera la folie.
Il y a combien de temps que vous n'avez pas été folle?
Tiens, dame, bonjour. C'est interdit de rouler ici sur les planches en voiture.
Et depuis quand?
Depuis 50 ans. Depuis qu'un crétin a roulé ici avec sa Ford Mustang.
C'était moi.
À noter que Francis Lai, le compositeur de la musique devenue culte d'Un homme et une femme, et de Un homme et une femme 20 ans déjà, est à nouveau de la partie pour ce film. En ce mois de mai donc, vous avez de quoi vous régaler dans les salles obscures, alors bonne semaine à tous, et à bientôt dans la chronique ciné.
C'était la chronique ciné, à retrouver chaque semaine et en podcast sur artdistrict-radio.com.